Vous écoutez RTL.
Bonjour, très heureux de vous retrouver en ce début de samedi après-midi dans Confidentiel, une heure où les plus fidèles d'entre vous le savent, nous emboîtons le chemin parcouru par une personnalité, tous ces petits cailloux que sèment derrière eux des hommes ou des femmes célèbres, les succès, la gloire, l'argent, les honneurs, mais aussi les peurs, les lâchetés ou les désillusions. L'acteur dont je vais vous raconter l'histoire a toute sa vie affiché la même image, lisse, polie et souriante, séducteur insouciant, abonné à une vie facile et ensoleillée. Pourtant, que de coups reçus au propre comme au figuré, que de regrets même s'il les cachait, que de mensonges, le vrai visage de 007, Confidentiel Roger Moore, c'est tout de suite sur RTL.
RTL, Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel Roger Moore.
Roger Moore n'a jamais été James Bond, ni le Saint, ni Lord Sinclair. Pas besoin de les incarner, il ressemblait déjà comme deux gouttes d'eau à ces personnages. Sauf que sa vraie vie à lui cachait des blessures, des tourments et des faiblesses qui étaient tout sauf du cinéma. Roger George Moore est né avant-guerre dans le quartier de Stockwell, à Londres. Rien d'un enfant gâté et pas la moindre ascendance aristocratique qu'on lui prêtera parfois à cause de ses airs de dandy. Fils unique qui grandit au sein d'un foyer modeste et anonyme, un père, George, agent de police affecté à la brigade londonienne des accidents de la circulation, une mère, Lily, fille d'un sergent-major de l'armée des Indes et femme au foyer. Roger Moore, blondinet rondouillard et souriant, va d'école en école sans jamais y briller. Pas du tout convaincu de l'utilité de ses études qui l'ennuient au plus haut point. La guerre et le Blitz, les bombardements de Londres, ne font qu'ajouter au désordre et aux jours sans professeur. Ses parents n'insistent pas. À 15 ans, le fils Moore met un terme définitif à sa scolarité et se trouve un premier job. Roger Moore est embauché comme dessinateur stagiaire dans un studio de dessin animé. Son coup de crayon est bon, il le tient de son père qui dessine des scènes d'accidents de la circulation pour les tribunaux. Le stagiaire a beau être doué, il est loin d'être un bourreau de travail et n'est pas un apprenti très rigoureux. Renvoyé au bout de quelques semaines pour avoir oublié des bobines de film. Au studio, Roger Moore a tout de même eu l'opportunité de croiser un certain David Niven, venu donner des conseils techniques. Les deux hommes tourneront dans quelques années trois films ensemble. Moore héritera même du personnage de James Bond qui aurait dû revenir à son collègue acteur. Peu importe, les deux hommes resteront des amis fidèles, le buste de David Niven trônant sur le bureau de Roger Moore, son plus grand admirateur.
RTL Confidentiel.
Roger Moore a 18 ans, il peut désormais compter sur son allure. 1m87, épaules larges, cheveux blonds parfaitement coupés, mais également sur le hasard, ou plutôt sur une chance insolente. Son père, policier, chargé d'enquêter sur un vol dans le garage du réalisateur Brian Desmond Hurst, lui décroche un rôle de figurant sur le tournage d'un péplum, César et Cléopâtre. Le futur James Bond joue dans ce film un soldat romain qui monte la garde en tenant une lance. Il ne se fait pas remarquer pour ses talents d'acteur, mais par sa capacité à attirer à lui toutes les jolies filles qui travaillent au studio de Denham. Ce manège n'a pas échappé à Hurst, qui a tourné quelques scènes du film, et voit en lui une graine de Casanova d'outre-Manche. Roger Moore, tout frais payé, se retrouve ainsi sur les bancs de l'Académie royale d'art dramatique. C'est ici, lors de ses trois trimestres d'études, qu'il va façonner un personnage qui ne va plus jamais le quitter. Une silhouette distinguée, une diction chic et désinvolte, un flegme nonchalant, un jeu de sourcils parfait et des costumes bien coupés. Un style raffiné, un peu précieux, qui lui attirera quelques moqueries lors de ses mois de service militaire où ses camarades le surnommeront la Duchesse. Roger Moore n'est pas encore un acteur confirmé, encore moins célèbre, mais son allure est reconnaissable entre mille. Taillé pour jouer les fils de familles fortunées, les jeunes banquiers, les jeunes avocats ou les jeunes rentiers. Une image qui lui collera à la peau. Moore restera enfermé dans cette catégorie de personnages, lui interdisant de jouer des méchants, des traîtres, des malfaisants qu'il aurait pourtant aimé incarner. À l'école d'art dramatique, Roger Moore a beaucoup de succès auprès des filles. Il fait en tout bien tout honneur la connaissance de Lois Maxwell, une apprentie comédienne qui sera un jour la plus célèbre des Miss Moneypenny dans la saga James Bond. Mais il n'a Dieu que pour l'une de ses camarades de classe, la blonde Doom Van Steyn, qui mène en parallèle une carrière de patineuse artistique. Doom a 5 ans de plus que lui, mère célibataire d'un petit garçon. L'acteur débutant est fou amoureux. Lors de son service militaire qu'il effectue en partie en Allemagne, il lui adresse des lettres enflammées. Roger Moore, 19 ans, et Doom Van Steyn, 24 ans, se marient. Un peu plus de 6 ans ensemble, pas pour le meilleur, mais pour le pire. Roger Moore et Doom Van Steyn forment un jeune couple désargenté. Pour survivre, ils multiplient les petits boulots. Serveur, plongeur dans un restaurant, vendeur de parapluies. Ils tournent des publicités pour du dentifrice, fait de la figuration dans des films oubliés dans lesquels son nom n'apparaît même pas au générique. Roger Moore s'occupe parfaitement du petit garçon de son épouse, l'accompagne même chez un spécialiste pour soigner des troubles de l'audition. Malgré cela, Doom ne cesse de rabaisser son mari. « Tu ne seras jamais acteur, ton visage est trop faible, ta mâchoire est trop grande et ta bouche trop petite », lui lance-t-elle un jour devant la gare de Victoria. L'épouse de Roger Moore est impulsive et même violente. Elle frappe son jeune époux qui ne réplique pas et garde sa terreur pour lui. Il enfouira longtemps ses mauvais souvenirs sous une chape de silence, ne les dévoilant qu'à la fin de sa vie. Un jour, Doom lui verse le contenu d'une théière chaude sur la tête. Puis elle rassemble toutes les affaires de son mari, les jette dans la baignoire et lui demande de partir dans des habits trempés. Quand il la quittera, enfin, elle le retrouvera et essaiera de le mordre. Roger Moore, homme battu, finira par demander le divorce sans en avoir fini pour autant avec les coups et les cris de la vie de couple.
RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
L'enfance de Roger Moore, fils unique qui sera un jour James Bond et qui va grandir dans cette Angleterre de la guerre et de l'après-guerre. Avec nous au téléphone de Confidentiel, notre invité Frédéric Albert Lévy. Bonjour et bienvenue sur RTL.
Bonjour.
Frédéric Albert Lévy, vous êtes journaliste, le meilleur spécialiste français de James Bond, on peut le dire. Vous avez...
Non, pas le meilleur, un spécialiste.
Un spécialiste, vous êtes trop modeste, parce que vous avez beaucoup écrit sur lui. Vous venez de publier avec Bertrand Collette et Tony Crowley les 8 visages de James Bond aux éditions de l'Histoire, et vous aviez traduit les mémoires posthumes de Roger Moore. Alors, Roger Moore n'oubliera jamais son enfance. Et vraiment, les moindres odeurs, les plus petits détails, ça va le poursuivre jusqu'à la fin de sa vie, on peut dire.
Oui, alors je suis content que vous parliez de l'enfance de Roger. Alors si vous me permettez, on ne dit pas Roger Moore. Je sais que mon combat est désespéré. Ça fait des décennies que j'essaie de faire comprendre aux Français qu'on ne dit pas Moore, mais Roger Moore, avec un O et pas avec un O. Mais je sais que j'ai perdu d'avance. Bon, c'est un enfant de la guerre. Enfin, il est né en 27 et il avait donc 12-13 ans quand la guerre est arrivée. Il a été heureux avec ses parents. Il est fils d'un policier et sa mère était femme au foyer. Ses parents, visiblement, ont été déterminants pour son existence. Sa mère occupe une grande part dans ses souvenirs.
Roger Moore est figurant, albardier dans un péplum, puis il va faire l'école dramatique de théâtre à Londres. Est-ce qu'il a vraiment envie de se lancer dans une carrière de comédien ? C'est ce qui l'anime, Roger Moore ?
Au départ, non, il n'a pas envie d'être comédien. Au départ, il n'est pas très bon élève à l'école, mais il se distingue par ses talents de dessinateur. Alors, il y a quand même un rapport avec le cinéma. Il commence à travailler pour une petite compagnie d'animation, mais il est assez vite viré. Et donc, ne travaillant pas, il suit plus ou moins des copains qui vont se présenter pour de la figuration. Lui est engagé assez vite comme figurant. En plaisantant, il dira qu'il était beau, j'étais si beau qu'aucune actrice ne voulait tourner avec moi. Il disait souvent, nous croyons prendre des décisions, mais en fait, nous nous engageons la plupart du temps dans des routes qui étaient déjà tracées sans que nous le sachions.
Roger Moore se marie tout jeune avec Doom Van Steyn. C'est une période de sa vie qui est un petit peu sombre, ce très jeune mariage.
C'est une période de sa vie qui est un peu sombre parce que l'histoire nous dit, et ça doit être exact, qu'il ne tenait pas spécialement à se marier avec elle, mais qu'il y a eu une espèce de chantage. Elle lui a fait croire qu'elle était enceinte, donc il l'a épousée uniquement pour régulariser la situation, et puis il s'est aperçu après qu'elle n'était pas enceinte. Il a toujours eu le sentiment de s'être fait un peu manipuler, d'autant plus que les violences conjugales, ça existait déjà à l'époque. C'est lui qui, semble-t-il, se faisait, sinon boxer, du moins griffer par cette première épouse. C'était une période pagaie du point de vue conjugal.
RTL Confidentiel.
Jean-Alphonse Richard.
Roger Moore a 25 ans. Au cinéma, il demeure une silhouette de second plan. Ses rôles se cantonnent à des apparitions fugitives en qualité d'ornithologiste dans un train ou de convive à une table. Les cachets sont maigres et l'avenir manque de perspective. L'acteur figurant en vient à poser comme modèle pour des revues de tricot. Performance qu'il préférera passer sous silence et qui lui vaudra longtemps le surnom de Monsieur Crochet. Côté cœur, Moore s'est jeté dans les bras de Dorothy Squires. 12 ans de plus que lui, l'une des chanteuses britanniques les plus en vue du moment, fraîchement plaquée par son premier mari.
In my heyday, young men wrote to me. Everybody seemed to have time to devote to me.
Elle remplit les music halls, au club Moulin Rouge à Hollywood où elle est sous contrat. La salle est pleine chaque soir. Un jeune fan viendra 5 fois assister au show avec sa mère. Un futur chanteur habitant Memphis, Tennessee, est nommé Elvis Presley.
If you're looking for trouble, you came to the right place.
Avec Dorothy, Roger Moore voit s'éloigner les années passées auprès de sa première épouse violente. Ce mariage était maudit, avouera-t-il. Dorothy est tellement amoureuse de son jeune époux qu'elle n'hésite pas à mettre sa carrière entre parenthèses. Le couple s'installe en Amérique et se marie le 6 juin 1953 dans le New Jersey. Pour que son mari réussisse au cinéma, Dorothy Squires va se démener, dépenser sans compter, au point, dira-t-elle, d'y avoir laissé ses dernières économies. Le charme exotique du playboy anglais Roger Moore, présenté au tout Hollywood par son épouse célèbre, ne tarde pas à opérer. Les studios de la MGM lui font signer un contrat d'exclusivité de 7 ans. On le voit dans « La dernière fois que j'ai vu Paris » avec Elizabeth Taylor ou encore dans « Diane de Poitiers » avec Lana Turner. Mais le jeune premier Moore n'est pas à la hauteur des espérances des studios. Le contrat est rompu au bout de 2 ans. Je me souviens que les metteurs en scène me disaient « Tu n'es pas très bon, alors essaie de sourire quand tu te déplaces », racontera Roger Moore, concluant « J'ai commencé à sourire et je n'ai plus jamais arrêté ». Même si Hollywood ferme rapidement la porte à sa carrière d'acteur, Roger Moore ne se décourage pas. « Je ne sais rien faire d'autre », dit-il. Il est alors accueilli à bras ouverts à la télévision, média tout neuf qui commence à lancer de grandes séries historiques et les premiers feuilletons. Si les stars du cinéma méprisent alors la télé, Roger Moore va y faire sa célébrité et y gagner beaucoup d'argent. En Angleterre, il décroche le rôle principal dans Ivanhoé, adaptation très lointaine du roman de Walter Scott. Moore devient en quelques semaines le héros de tous les enfants britanniques.
RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
Roger Moore tourne en Amérique des séries western, The Alaskans et Maverick. L'année suivante, 1962, Roger Moore, 35 ans, devient Simon Templar.
Vous êtes maintenant feu le célèbre Simon Templar, le saint.
118 épisodes pour accéder dans le costume de cet aventurier richissime au rang d'icône de la télé. Personnage culte des 60s qui rassemble déjà tous les ingrédients qui vont faire la marque de fabrique Roger Moore. Ironie, humour, frivolité et surtout séduction sur le petit écran comme dans la vie de tous les jours. Tout sauf un saint sera d'ailleurs le titre de l'autobiographie qu'envisageait de publier Doom Van Steyn, sa première épouse. Roger Moore n'est effectivement pas un modèle de fidélité. Il est marié à Dorothy, mais il lui arrive de succomber aux tentations. Elle ne manque pas pour ce charmeur qui passe à la télé, même s'il démentira plus tard être un Don Juan. En fait, je n'étais pas très à l'aise avec les filles. J'avais de temps en temps un coup de chance. Puis j'ai fini par apprendre que pour l'emporter, le dernier mot pour un homme doit toujours être « Oui, bien sûr, chérie ». Sur le tournage de la série The Alaskans, Roger Moore a déjà eu une aventure avec une autre Dorothy, la comédienne Dorothy Provine. Pas de chance pour lui, il a prononcé en plein sommeil son prénom. Son épouse a été immédiatement intriguée car d'ordinaire, il ne l'appelle jamais Dorothy, mais n'utilise que son diminutif, Dot. Au fil des liaisons d'un soir, le deuxième mariage de Roger Moore se disloque. Dorothy fait deux fausses couches, se désespère de ne pas avoir d'enfant. Les disputes sont de plus en plus fréquentes, déclenchées par une épouse qui se sent à juste titre trompée et humiliée. L'acteur recommence donc à prendre quelques gifles. Il ne réplique pas, il esquive, passe ses nuits au bord de la piscine, enroulé dans une couverture, joue de la guitare pour éviter les confrontations. Dorothy finira par lui arracher l'instrument des mains et le lui brisera sur la tête. Elle avait beaucoup de caractère, dira l'acteur. Un tournage met un point final à l'histoire d'amour entre Roger Moore et Dorothy Squires. L'acteur s'absente pour aller retrouver en Yougoslavie l'équipe du film « L'enlèvement des Sabines » où il partage l'affiche avec Mylène de Mongeau. Il ne donne plus aucune nouvelle jusqu'à ce que son épouse apprenne qu'il est rentré depuis longtemps à Londres pour raison de santé. Elle accourt alors à la clinique. Ici, plus de Roger Moore, mais un paquet de lettres d'amour en italien signé d'une actrice, Luisa Mattioli. Dorothy Squires trouvera la maison où son mari se cache, lancera une brique dans une fenêtre. L'acteur restera terré à l'intérieur. « J'ai toujours été un peu froussard », avouera-t-il. Quand un policier fera remarquer à l'épouse trompée que sa main saigne, elle répondra de façon théâtrale « Ce soir, c'est mon cœur qui saigne ». Roger Moore, empêtré dans la procédure de divorce et les recours judiciaires, ne pourra se marier à Luisa Mattioli qu'en avril 1969. Le jour de la noce, à Londres, 600 personnes applaudiront les mariés, des dizaines de femmes scandant le nom de l'acteur. Moore et Mattioli auront trois enfants, Déborah, Christian et Geoffrey. Le couple restera très longtemps uni, mais n'échappera pas à la rupture. Après presque 30 ans de vie commune, Roger Moore sera rattrapé par les démons de la séduction et le désir d'aller voir ailleurs, à une époque où il était déjà devenu l'espion qui aimait les femmes, James Bond 007.
confidentiel
sur RTL.
Roger Moore, qui n'est pas encore James Bond, mais qui obtient ses galons de la célébrité à la télévision, des personnages mémorables. Toujours avec nous dans ce confidentiel Roger Moore, son meilleur connaisseur, Frédéric Albert Lévy, journaliste et écrivain. Frédéric Albert Lévy, pourquoi le cinéma, pourquoi Hollywood ne veut pas de Roger Moore ?
Oh ben, je crois que c'est relativement simple parce qu'il est anglais. D'autant plus anglais que, bon, ceci est une anecdote, mais quand il commence sa carrière, apparemment, il a un accent abominable à tel point qu'un responsable a pondu un jour une note en disant « Commencez à apprendre à ce type à parler un petit peu anglais ». Il aurait dû, d'ailleurs, plaire aux Américains parce que, d'une certaine manière, c'est un self-made man, c'est quand même un type qui s'est entièrement construit. L'image qu'il donne de lui, en particulier dans « Amicalement vôtre », bon, celui d'un aristocrate, c'est une image qu'il a fabriqué. Donc ceci aurait dû, d'une certaine manière, le self-made man qu'il était, aurait dû le favoriser auprès des Américains, mais ça n'a pas trop marché. Il y a quand même une chose dans les séries qui a bien marché, c'est le saint.
C'est le saint Simon Templar qui vraiment rend célèbre Roger Moore.
Ah oui, c'est ça qui lui donne quand même la célébrité. Alors la célébrité internationale, il l'avait déjà plus ou moins avec Ivanhoe, certes, mais c'est le saint qui arrive à imposer son nom aux États-Unis. Le saint a été déterminant parce que, comme vous dites, il y a déjà des jeux de sourcils dans le saint qui annoncent un peu les mimiques de mort dans Bond. C'est ça qu'il fait connaître.
Alors, on a le sentiment que très vite, Roger Moore a été mis dans une case, hein, un petit peu celui du dandy, du gentleman chic. Impossible d'en sortir. Il ne fera d'ailleurs quasiment jamais de théâtre, par exemple, Roger Moore. Pourquoi ?
Il aurait voulu, mais bon, j'allais dire, ça fait partie de sa modestie et de sa résignation. Il a dit, bien sûr, j'aurais aimé qu'on se souvienne de moi comme ayant été l'un des meilleurs Hamlet ou un grand roi Lear, mais je suis Bond et finalement, je suis heureux. À cause de son autodérision, à cause de son humour, tout le monde prenait ça à la rigolade sans voir que derrière la rigolade, quelque chose de bien plus profond se dessinait. On peut réduire effectivement sa carrière à celle d'un comédien spécialisé dans la légèreté. Bon, et lui-même, avec son autodérision constante, a tout fait pour encourager cette vision. Mais moi, je ne pense pas qu'il était totalement satisfait de cette vision. C'était une manière stratégique et un peu amère, à mon avis, de dire « Bon, vous voulez que je fasse le clown ? Eh bien, je vais être le clown. »
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel Roger Moore sur RTL.
En cette année 1971, Roger Moore, acteur délaissé par Hollywood, poursuit sa carrière à la télévision. Après le dernier épisode du Saint, il avait pourtant juré qu'il ne tournerait plus de série, mais aucun studio de cinéma ne veut de lui. La nouvelle série s'appelle donc The Persuaders, amicalement vôtre en français. L'américain Tony Curtis, Danny Wilde et l'anglais Roger Moore, Lord Brett Sinclair, évoluent entre jolies filles, voitures de luxe, palaces et côtes d'azur.
C'est le plus mauvais café que j'ai bu au cours de toute ma vie.
Il se trouve que tu es en train de boire du thé.
Ah bon, bah alors pardonne-moi, bah c'est le plus mauvais thé que j'ai bu, infect. Oh, votre Altesse, quelle magnificence. Votre carrosse vous attend et il oserait aller dans la rue habillé comme ça.
Daniel, tu redonnes de la vigueur à la signification du mot balou.
Ah, oh, mais te fâche pas. Tu sais que tu es vraiment magnifique.
Oui, apprends que c'est la tenue classique de tous les pères du royaume quand ils se réunissent.
Bah si tu te promenais à New York dans cette tenue, tu n'irais pas loin.
24 épisodes seulement, un flop aux États-Unis. Mais un nouveau coup de chance pour Roger Moore qui, grâce à la série, rajeunit son image jusqu'à devenir une figure de la pop culture. Roger Moore quitte le plateau d'Amicalement Vôtre sans regret, lassé par le dilettantisme de son camarade Tony Curtis, qui aimerait que chaque tournage soit fini avant même d'avoir commencé, et le désordre général qui règne sur la série. Quand les producteurs de James Bond lui proposent le rôle, il accepte immédiatement, 10 ans plus tôt, son nom avait déjà circulé pour le premier 007, Bond contre Dr. No. Mais il n'avait jamais été contacté, le créateur du personnage, Ian Fleming, voulant une vraie star, et les producteurs ne le trouvant pas assez méchant, pas aussi animal que l'acteur choisi, Sean Connery. Cette fois, Roger Moore devient James Bond. Avec lui, le personnage entre dans une nouvelle dimension. Le smoking blanc, la nonchalance affectée, la priorité donnée aux jolies filles plutôt qu'au droit de tuer. Moore chasse la virilité ténébreuse de Sean Connery. Sean avait fait de Bond un tueur, j'en ai fait un homme amoureux, dira-t-il. Pour son premier 007, Vivre et laisser mourir, la production lui demande de perdre du poids et l'inscrit dans un club de gym. On voulait faire de moi un Daniel Craig avant l'heure. J'ai fait du Roger Moore, racontera l'acteur, ajoutant « Ado, mon père me traitait de sac à patates. Je n'étais pas sûr de moi, timide, introverti. Pour m'en sortir, je suis devenu Roger Moore. » Moore endosse la panoplie populaire et prestigieuse de 007, avec le pressentiment que l'aventure ne durera pas. Il a déjà 45 ans et surtout, il ne croit guère au héros qu'il incarne. Bond ne peut pas être un vrai espion puisque c'est un type qu'on reconnaît immédiatement dans n'importe quel bar, va-t-il souvent répéter. En dépit de son pronostic, il sera le plus fructueux des James Bond, 7 fois 007. Le succès est phénoménal, 161 millions de dollars de recettes pour Vivre et laisser mourir.
When you were young and your heart was an open book, you used to say, this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die.
Live and Let Die, vivre et laisser mourir, le titre de la chanson, mais aussi du James Bond interprété par Roger Moore, auquel nous consacrons cet après-midi un confidentiel sur RTL.
Chaque semaine, RTL.fr vous propose des programmes inédits accessibles uniquement en podcast. Découvrez par exemple Tilt.
Bonjour, ici Sylvain Zimmermann. Pour eux, un jour, ça a fait tilt. Ils ont eu le déclic, celui qui leur a permis d'adopter un mode de vie beaucoup plus responsable, meilleur pour la planète. Ils témoignent dans Tilt, un tout nouveau podcast RTL à découvrir sans plus tarder.
Tilt, un podcast RTL à écouter gratuitement sur RTL.fr. Confidentiel.
Confidentiel.
Sur RTL.
À la fin des années 70, Roger Moore est un acteur convoité, rentable, bien trop riche pour rester en Angleterre où les impôts sont trop élevés. Il s'installe donc avec femme et enfants en Suisse, à Crans-Montana. Il achètera ensuite un appartement dominant la plage du Larvotto à Monte-Carlo. Roger Moore racontera un jour « Je suis un sacré chanceux. Jeune acteur, on m'avait enseigné que pour réussir, il fallait avoir à part égale du talent et de la chance. Je ne suis pas d'accord. » Pour moi, ça a été la chance à 99%.
Vous ne m'aviez pas dit qu'il y avait toutes ces mesures de sécurité?
Ils ont avancé lors du vol.
Il faut tout de même continuer comme ça a été prévu. Toro, ça va être une de ces corrides.
James. Soyez prudent.
Avec Bond, Roger Moore se retrouve dans la peau d'un personnage qui fait sa fortune, mais dont il est otage. « Mon nom est Moore, Roger Moore » lance-t-il souvent pour plaisanter. Mon James Bond n'était pas différent du Saint ou de Brett Sinclair dans Amicalement Votre. J'étais moi-même, j'ai toujours joué comme s'il s'agissait de mon propre rôle. Roger Moore a 57 ans quand il quitte le costume de 007. Jamais un acteur n'a incarné aussi longtemps le personnage. Moore démentira les allusions du producteur selon lesquelles il voulait absolument continuer. Après Bond, l'acteur ne revient plus qu'épisodiquement au cinéma. Habitué des émissions télé, des galas de charité et de la rubrique People. Surtout quand le couple modèle qu'il forme depuis 30 ans avec Luisa Mattioli vole en éclats en 1994. Le scandale est retentissant. Roger Moore a quitté du jour au lendemain son épouse pour la meilleure amie de celle-ci, la Suédoise Christina Tolstrup. On vient tout juste de lui diagnostiquer un cancer de la prostate. J'ai pensé à la vie, j'ai pensé à la mienne, j'ai dû prendre des décisions radicales, dit-il. Luisa Mattioli ne pardonnera jamais la trahison de sa vieille amie et le départ de son mari. Les trois enfants du couple, absents à son mariage avec Christina 8 ans plus tard, mettront du temps à se réconcilier. Moore avouera des années plus tard dans une interview « Je me suis marié 4 fois et j'ai fait souffrir beaucoup de monde autour de moi. Je suis un salaud égoïste, mais je suis vraiment très très heureux que Christina et moi nous soyons trouvés. »
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel. Roger Moore sur RTL.
En mai 2003, à New York, pour sa 34e apparition sur scène dans un monologue où il raconte ses souvenirs, Roger Moore, 76 ans, s'effondre, victime d'une crise cardiaque. On lui installe un pacemaker, dès lors, la vie du plus léger des James Bond se ralentit. Lui qui est depuis toujours hypochondriaque, au point d'avoir dédié une de ses biographies à ses 5 généralistes, 5 cardiologues, 2 dermatologues et 1 proctologue, guette désormais le temps qui passe. « Je ne me lève pas chaque matin en pensant que je vais mourir. À mon âge, je sais que je suis déjà en train de mourir », aime-t-il répéter. Le 23 mai 2017, la roue de la fortune s'arrête pour Sir Roger Moore, 89 ans, fait chevalier par la reine d'Angleterre. Rattrapé par un cancer de la prostate qui le laissait tranquille, il rend son dernier souffle dans sa maison de Crans-Montana en Suisse. James Bond sera enterré au cimetière de Monaco sous un parterre de roses rouges et blanches. Avec un regret, celui de ne jamais avoir pu jouer Laurence d'Arabie, et une joie, pas celle d'avoir été James Bond, mais la chance d'avoir tenu le premier rôle dans un obscur thriller, La seconde mort d'Harold Pelham. Roger Moore disait « Ce fut la seule fois où j'ai joué quelqu'un qui n'était pas moi. »
RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
Roger Moore, qui, 3 ans après sa mort, demeure un incontournable James Bond, une figure familière et amicale de la télévision. Frédéric Albert Lévy, vous êtes notre invité dans Confidentiel. Pourquoi Roger Moore a-t-il été choisi pour incarner James Bond ?
Alors, il a été choisi pour incarner James Bond tout simplement parce qu'il est british, puisque un Anglais qui ne se moque pas de lui-même n'est pas un Anglais véritable. Bon, ça fait partie de l'éducation anglaise. C'est ce qui permet justement à un produit aussi anglais, aussi britannique que les Bond, d'avoir du succès dans le monde entier. Bond est un fantasme, et donc, pour que le fantasme passe sans être ridicule, il faut qu'il soit lui-même en train de se moquer de lui-même. Et personne ne pouvait faire ça aussi bien que Roger Moore. C'est sa spécialité. Si on est méchant, on peut dire que c'est sa seule spécialité, mais c'était absolument déterminant pour faire passer ce qu'il devait faire passer. C'est ce qui est amusant avec Moore, c'est que la popularité qu'il a joué pour lui, puisqu'il a eu un immense public. Ses films, si on fait le compte, ont eu plus de succès que ceux de Sean Connery. Son humour, bon, sa dérision, ont fait aussi que, ça c'est ma théorie, mais j'y tiens, c'est lui qui a, d'une certaine manière, sauvé la série.
Est-ce qu'il avait des regrets sur sa carrière, Roger Moore ?
Un jour, il y avait une cérémonie parmi d'autres, bon, pour rendre hommage à une série de films qu'il avait faite. Et un journaliste anglais lui demande « Est-ce que vous considérez que cette cérémonie est un hommage rendu à votre carrière ?» Et Moore lui répond laconiquement « Quelle carrière ?»
Frédéric Albert Lévy, Roger Moore restera un acteur formidable de télévision, un grand James Bond. Qu'est-ce qui va rester de Roger Moore et qu'est-ce qui reste aujourd'hui ?
Alors, qu'est-ce qui reste de Roger Moore ? Une chose dont on n'a pas parlé et qui sera peut-être oubliée, mais à laquelle il tenait énormément, c'est que après sa période Bond, sa carrière cinématographique, et moi-même qui suis un fan de Roger Moore, je n'hésite pas à employer l'adjectif pitoyable. Bon, il fait par exemple une apparition dans le film des Spice Girls, Spice World, qui est affligeante. Il joue dans un Jean-Claude Van Damme qui s'appelle Le Grand Tournoi. C'est pathétique, donc c'est très mauvais. Je crois qu'il était le premier lui-même à s'en fiche. C'est ça, Roger Moore, c'est qu'il a eu des échecs dans sa vie personnelle, y compris aussi dans sa carrière. Il n'a pas eu, par exemple, aux États-Unis le succès qu'il aurait voulu avoir, mais il a su considérer aussi bien ses échecs que ses succès, aussi bien ses succès que ses échecs, avec une distance qui devrait rester pour nous, à mon avis, une leçon.
Merci beaucoup Frédéric Albert Lévy d'avoir évoqué dans Confidentiel la trajectoire de Roger Moore. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, François Touchard à la réalisation. Et puis un immense merci pour votre fidélité à Confidentiel. J'ai toujours beaucoup de plaisir à partager avec vous ce rendez-vous du samedi. Portez-vous bien, écoutez RTL. Je vous retrouve samedi prochain dans Confidentiel avec Lady Gaga. Qui se cache vraiment derrière ce masque ? Vous verrez, la réponse est surprenante.